France Inter, il est 7h10. Et c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour.
Bonjour à tous. 1 million d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines décennies. Il faut sauver la biodiversité. Scientifiques de 130 pays réunis à Paris à partir d'aujourd'hui pour un sombre inventaire de nos écosystèmes. Élections européennes, beaucoup d'électeurs sont indécis, notamment à gauche, où l'offre leur semble trop importante. Limiter la pollution et les nuisances sonores, on lève le pied à Lyon. Le périphérique passe ce matin de 90 à 70 km à l'heure. Et puis une révolution dans le matériel d'échographie. Une start-up américaine s'implante en France avec un tout petit appareil qui tient dans la poche.
Et je vous rappelle que dans 20 minutes à 7h50, l'invité de Karine Bekar est aujourd'hui l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye. J'ai nommé Hassan Salamé.
France Inter.
Comment va la biodiversité? Que peut-on faire pour la préserver, Laurence? Scientifique et diplomate de 130 pays au chevet de notre écosystème, cette semaine à Paris.
Le mot biodiversité est parfois bien abstrait, mais quand l'ONU estime qu'un million d'espèces animales et végétales vont disparaître dans les prochaines décennies, ça parle davantage. À l'appui de cette évaluation mondiale, 3 ans d'enquête sur les écosystèmes, 1800 pages, qui devraient devenir la véritable référence scientifique en matière de biodiversité. Comme ce que le GIEC est au climat. Une espèce sur 8 menacée d'extinction. Le rapport est sans surprise très alarmant, Célia Kiré.
Premier consensus sur le sujet, la planète vit la 6e extinction de masse de ces espèces. Et c'est la première dont les hommes sont responsables. 60% des animaux vertébrés ont disparu en 40 ans, précise Arnaud Gauffier, l'un des responsables du WWF. Pas étonnant donc qu'une espèce sur 8 soit menacée.
On a perdu plus de la moitié des zones de mangroves à l'échelle de la planète. La déforestation dans les zones tropicales ne cesse de s'amplifier. On a 90% des stocks de pêche qui sont soit surexploités, soit exploiter au maximum. On a des impacts qui sont majeurs et qui concernent l'ensemble des écosystèmes.
Autre consensus, les 3/4 de nos cultures dépendent par exemple des insectes pollinisateurs. Cela représente aussi 1,5 milliard d'emplois. Et pourtant, ils disparaissent même dans des régions préservées car les fleurs manquent. Anaïs Aélène le constate. Elle est animatrice au parc naturel régional des Causses du Quercy.
On connaît le déclin des abeilles domestiques, mais les abeilles sauvages, c'est encore pire parce que c'est des espèces qui sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus sensibles. Quand j'étais petite, quand on faisait des voyages par exemple la nuit en voiture, on devait régulièrement s'arrêter pour nettoyer le pare-brise parce qu'on ne voyait plus rien avec tous les insectes qui étaient écrasés. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus jamais pour nettoyer son pare-brise quand on roule.
Et la disparition des insectes entraîne celle de leurs prédateurs, alors que les espèces invasives comme le frelon asiatique se multiplient. Pour certains experts présents à Paris, l'idéal serait que ce sommet mène à un texte aussi fort que l'accord de Paris sur le climat.
Célia Kiré, la politique. Après le chef de l'État, c'est au tour d'Édouard Philippe de monter en première ligne. Ce matin, toute la journée d'ailleurs, séminaire de la majorité à Matignon. Il va s'agir de définir une méthode de travail, de répartir les rôles, de mettre en œuvre un calendrier pour lancer les chantiers annoncés par le chef de l'État. Et une grande question à laquelle ce séminaire devra aussi répondre, comment ces mesures seront-elles financées?
7h33 les européennes, dans un mois donc, et beaucoup d'électeurs, Laurence, qui ont du mal à faire un choix.
Notamment ceux de gauche, ce sont eux les plus indécis, il faut dire qu'entre les Insoumis, le PC, Génération.s, Place Publique et le PS, et enfin les écologistes, l'offre est importante, voire trop. France Inter va suivre jusqu'au 26 mai, c'est indécis, déboussolés, voire dépités par l'émiettement à gauche. Reportage de Cyril Graziani.
C'est un reproche qui revient constamment. Pourquoi n'y a-t-il pas une liste commune? Christine, électrice de gauche de toujours, en veut aux candidats.
J'ai été extrêmement en colère, je dois dire, que les écologistes et la gauche ne fassent pas une grande liste commune pour les européennes. Je pense que c'est une occasion manquée et qui est extrêmement catastrophique, parce que là, il y avait vraiment quelque chose de fort à défendre.
À 34 ans, Jules a toujours voté à gauche, a participé à des campagnes. Là, il a même adhéré à Place Publique. Le discours de Raphaël Glucksmann l'a séduit.
Mais il n'est pas assez visible, je trouve. Et je trouve, enfin, c'est dommage, on le voit pas assez.
Malgré cet engagement, donc, vous pourriez ne pas voter pour lui si quelqu'un d'autre venait à vous séduire.
Ouais, exactement. Là, il n'y a personne qui lui de figure de proue, en fait. Là.
Pour un électeur de gauche, ne pas réussir à faire un choix, parfois, c'est dur à assumer. Apolline l'avoue, elle est dépitée.
Bon, là, faut vraiment que je me décide, en sachant que je pars en vacances entre temps et qu'à un mois, j'ai commencé à m'inquiéter, à savoir pour qui j'allais voter, surtout que j'ai fait une procuration, donc faut que j'informe la personne pour qui je vais voter, etc. Et je suis un peu allée voir sur les médias, sur Internet, pour chercher notamment des comparaisons de programmes. Et j'ai rien trouvé et je suis un peu démunie.
Dans les jours qui viennent, Apolline demande aux candidats un peu plus de clarté sur leur programme.
Nous retrouverons ces électeurs indécis dans les prochains jours pour savoir s'ils ont fait leur choix. En Espagne, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez remporte les législatives, mais faute de majorité absolue, il devra chercher des alliés pour gouverner un pays divisé où, pour la première fois depuis le retour de la démocratie après la mort de Franco en 75, l'extrême droite va entrer au Parlement avec 24 députés. Aux États-Unis, l'Agence fédérale de l'aviation aurait-elle pu faire plus pour empêcher la catastrophe aérienne de l'Ethiopian Airlines en mars dernier? C'est ce que laisse entendre en tout cas le Wall Street Journal. Après le second crash d'un Boeing 737 MAX en quelques mois, l'appareil en effet a été cloué au sol, mais on apprend que les inspecteurs de la FAA avaient envisagé de prendre une telle mesure pour une partie de la flotte avant même le second crash. Ces inspecteurs avaient appris que l'avionneur avait désactivé le signal d'alerte censé avertir des dysfonctionnements. Ce signal d'alerte était une option payante. Une petite révolution dans l'imagerie médicale. La start-up américaine Butterfly Network s'apprête à commercialiser en France sa sonde d'échographie ultra portable. Elle est plus rapide, plus intuitive, beaucoup moins chère. Cette sonde Butterfly IQ améliore la prise en charge de patients et notamment pour les services d'urgence. Clémentine Sabrier.
D'habitude, aux urgences, il faut pousser la machine à échographie de box en box pour examiner les patients et ça fait perdre un temps précieux. Jérôme Bocobza est médecin urgentiste et échographe, il a déjà testé la sonde ultra portable Butterfly IQ.
On les a dans la poche et donc quand on en a besoin, on l'utilise comme on utilise un stéthoscope. C'est un prolongement de l'examen clinique et du coup une amélioration de la prise en charge de nos patients. C'est une technique qui nous permet d'être plus performants au niveau de l'examen clinique, plus pertinents et donc de répondre à des questions pour lesquelles l'habitude de la réponse soit va venir d'aller chercher notre échographe, soit de faire d'autres examens complémentaires de type radiologie standard.
Voilà. Plus rapide mais aussi plus intuitif, Butterfly IQ, c'est une sonde unique qui se branche sur smartphone. Elle est reliée à une application. La qualité de l'image qu'elle renvoie sur l'écran n'est pas aussi bonne qu'un échographe classique, mais elle permet de repérer les anomalies. C'est la première sonde d'échographie de ce genre à coûter moins de 2000 euros. Une révolution pour le médecin urgentiste.
Ça aura un gros impact économique parce qu'on pourra s'équiper plus largement et donc avoir une meilleure pénétration de cette technique dans la pratique quotidienne des médecins urgentistes et d'ailleurs pas que des médecins urgentistes puisque cette technique peut s'appliquer à toutes les spécialités médicales.
Butterfly IQ a obtenu le marquage CE, donc elle peut être commercialisée dans l'Union européenne. Elle devrait arriver en France cet été.
Et rappelons que près de 5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès actuellement à cette technologie qui peut sauver des vies.
Le périph' lyonnais limité à 90 km/h. C'est fini ce lundi, Laurence, il va passer à 70.
Et 4 des 6 radars fixes postés sur le périph' lyonnais ne seront pas immédiatement réglés à 70 km/h. Ils le seront courant mai. 2 d'entre eux vont marcher dès ce matin et des radars mobiles sont évidemment possibles. La métropole lyonnaise précise qu'en moyenne, le temps de parcours d'un automobiliste sera rallongé de seulement 2 minutes, à voir à l'usage au quotidien bien sûr. Reportage de Christophe Vincent.
Les pics de pollution répétés ont convaincu la métropole. La vitesse est donc réduite de 20 km/h contre 10 à Paris il y a 5 ans. Résultat, 15% d'accidents en moins, comme le souligne Gaspard Michardière, directeur régional de la prévention routière.
Ceux qui sont le plus touchés sur des boulevards périphériques, ce sont les deux roues, les motards, les scooters, et également les conducteurs apprentis, un peu les seniors, parce qu'il y a beaucoup de changements de voie, beaucoup de voies d'insertion sur un périphérique. Et si on aborde ces changements à une vitesse moindre, alors on diminue clairement les accidents.
Au Buère, à Villeurbanne, les habitants ont vu imprenable sur le périph, mais tous n'approuvent pas cette mesure.
Je pense que c'est une bonne chose, oui.
Pour la pollution et pour le bruit, je suis d'accord. C'est pas bon pour la santé, mais autrement, c'est un peu trop quand même. 90, ça va très bien.
On travaille tous les jours, donc on a la voiture, on a le camion, on va avoir du stress en plus. 90, c'était chaud déjà, mais 70, là, ça va pas rouler.
La pollution, la sécurité.
Je pense pas que ça va changer quelque chose.
Donc ils font ça pour nous emmerder.
À Paris, la vitesse moyenne est pourtant repassée de 33 à 38 km/h sur le périph' grâce à cette mesure. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Cette information de nos confrères de France Bleu Vaucluse, un adolescent a été tué poignardé hier à Avignon. Le jeune homme était déjà en arrêt cardiaque quand les pompiers sont arrivés sur place. Ils n'ont pas pu le réanimer. La victime était âgée de 17 ans. Elle est morte en pleine rue, tuée de plusieurs coups de couteau. Le ou les agresseurs sont en fuite. Un incendie s'est déclaré cette nuit sur un navire de la compagnie Brittany Ferries. Il y avait 908 personnes à bord, selon la préfecture maritime de l'Atlantique. Le feu a été maîtrisé peu avant avant 5 heures. Aucune personne n'a été blessée. Le navire se situait au sud du Finistère. Il effectuait la liaison de Plymouth en Angleterre vers Santander en Espagne. Jamais une femme n'avait été nommée arbitre central d'un match de première division en France. C'est fait depuis la 34e journée de Ligue 1 pour un match entre Amiens et Strasbourg. Un 0 partout sans spectacle, mais qui restera dans l'histoire. Stéphanie Frappard, 35 ans, est déjà arbitre de Ligue 2 depuis 2014. Elle sera la seule arbitre française lors de la Coupe du Monde féminine de juin et juillet prochain. C'était donc hier pour elle un tour de chauffe. Opération réussie, 4 cartons jaunes, le sifflet toujours utilisé à bon escient. Les hommes ont dû admettre que tout s'est bien passé, Cédric Langdroth.
Il y a eu des applaudissements, c'est rare, pour son arrivée sur la pelouse. Il y a eu cette armée de micros pour l'attendre après la rencontre. Des signes pour rappeler à Stéphanie Frappard que, contrairement à ce qu'elle veut bien dire, hier, elle est entrée dans l'histoire.
Moi, je l'ai pris comme un match comme un autre. Je savais que c'était en Ligue 1 et je l'ai préparé aussi bien que les autres.
Chez les joueurs, seul le Strasbourgeois Samuel Grandcir concède du bout des lèvres qu'il a senti une différence.
Des fois, il y a eu des petites fautes où normalement, tu siffles pas vraiment, des petits contacts où il n'y a rien vraiment de spécial. Mais franchement, pour moi, elle a fait son taf quand même.
Mais pour la plupart des acteurs, le mot d'ordre, c'était plutôt rien à dire. Pablo Martinez, le défenseur strasbourgeois.
On a fait tout un pataquès parce qu'elle arbitre en Ligue 1, elle habite déjà en Ligue 2, donc il n'y a pas de problème. C'est bien pour l'avenir de la femme dans le foot.
Et cet avenir, il passe justement par ce sentiment de normalité observé hier. On va dans le bon sens, estime le président d'Amiens, Bernard Joannin.
C'est à eux de s'imposer, je parle des femmes, de faire leurs preuves, etc. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de match de Ligue 1 qui ne soit pas arbitré par des femmes.
Pour l'instant, il n'est pas prévu de revoir Stéphanie Frappard arbitrer un match de Ligue 1. Cette rencontre servait uniquement de préparation pour la prochaine Coupe du Monde féminine en juin. Mais sa prestation d'hier, juste et maîtrisée, lui a assurément fait marquer des points.
C'est à eux de s'imposer. Quand on parle des femmes, il y a encore du boulot, cher monsieur.
Merci Laurence Thomas. Des difficultés en Île-de-France. La route.
Point route avec la grotte Chauvet 2 en Ardèche. Le site UNESCO du premier chef-d'œuvre de l'humanité. Visitez la grande exposition des lions et des hommes. Consultez grottechauvet2ardèche.com.
Olivia Chandiou.
Oui, d'abord en raison de cet accident sur l'autoroute A15 à hauteur de Pontoise dans le sens Paris-Région. Une collision entre un véhicule léger et une moto. Attention, la voie de gauche est neutralisée. Toujours en région parisienne, ça coince pour rentrer dans Paris quand vous arrivez porte de la Chapelle depuis l'autoroute A1. Des ralentissements aussi sur le périphérique extérieur. Comptez plus de 40 minutes de la porte de Bagnolet à la porte d'Orléans. Et puis ça coince aussi dans le Var ce matin avec plus d'une vingtaine de kilomètres de ralentissement sur l'autoroute A57 pour rejoindre Toulon.